Merci pour l'équipe qui nous a accompagnés dans la première partie de ce culte. Et j'aimerais commencer en vous posant une question. Est-ce que vous savez d'où vient le caducée des médecins? Vous savez? Ce bâton-là autour duquel s'enroule un serpent et qui est repris par bien des professions médicales et paramédicales. On le trouve aussi d'ailleurs sur le logo de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Eh bien, figurez-vous qu'il vient de la Grèce antique. C'était un attribut du dieu grec Asclépios, on dit aussi Euslap, je l'affiche ici, un dieu grec de la médecine, de la guérison et dont l'emblème était le serpent. Il est toujours représenté, ce dieu, avec un bâton et ce serpent qui est enroulé autour, et c'est de là que vient le caducée des médecins. Et bien des temples étaient consacrés à ce dieu grec Asclépios dans toute la Grèce antique, et dont un célèbre dans la ville de Pergame. Et Pergame, c'est précisément aux chrétiens de cette ville que Jésus s'adresse dans la troisième lettre qu'il a adressée, écrite, enfin pas écrite lui, mais Jean, mais adressée aux chrétiens de Pergame. Je réaffiche d'ailleurs la carte avec les sept. Ah, il y a eu un petit saut là. Avec les sept églises de l'Apocalypse, chapitre 2 et 3. Et je vous invite à lire dans le texte qui est affiché, l'Apocalypse, chapitre 2, les versets 12 à 17. Je lis. Donc le texte va s'afficher, voilà. À l'ange de l'église de Pergame écrit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais où tu habites. Là où est le trône de Satan. Tu tiens fermement mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai plusieurs choses contre toi. Tu as là des gens qui tiennent fermement l'enseignement de Balaam. Il enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, avant qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle. De la même manière, tu as, toi aussi, des gens qui, pareillement, tiennent fermement l'enseignement des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur le caillou, un nom nouveau écrit que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Voilà pour la lecture de cette lettre. Et quel est le message que Jésus adressait donc au premier destinataire de cette lettre, aux chrétiens de Pergame? Et puis plus largement, quel est le message pour nous aujourd'hui? Le premier point que j'aimerais développer ce matin, et qui vient des versets 12 et 13, persévérer malgré l'oppression. Je relis le verset 13. Je sais où tu habites. Là est le trône de Satan. Tu tiens fermement mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. À deux reprises dans ce verset 13, il est fait mention de ce lieu-là où Satan demeure, habite, là où est son trône. Il faut rappeler qu'à Pergame, il y avait, je le disais en introduction, un certain nombre de temples et autels érigés en l'honneur de tout un tas de divinités païennes. J'ai cité donc Asclépios, le dieu de la médecine, et des gens venaient de loin, de très loin, pour sacrifier sur l'autel à ce dieu pour espérer être guéri. Peut-être même que des chrétiens étaient tentés de le faire. Il y avait aussi très connu le dieu Zeus, dont l'autel était particulièrement grand, élevé sur une colline. On ne pouvait pas ne pas le remarquer dans cette ville. Et tout un tas d'autres autels et temples qui étaient érigés. Et donc ce n'est pas probablement pas un hasard si Jésus s'adresse à cette église de Pergame en mentionnant que là demeure le trône de Satan, en référence à l'une et ou l'autre de ces divinités, Asclépios, avec le serpent. On sait le serpent, ce qu'il représente aussi dans la parole de Dieu, le diable, ou encore même la divinité de Zeus. Et à cela se rajoute, à ce contexte de la ville de Pergame, qui c'était la capitale officielle de la province romaine d'Asie, et elle avait été le premier siège du temple à l'empereur de Rome, avant que ça ne devienne la ville de Smyrne dont nous avons parlé avec la lettre précédente. C'était déjà il y a 2 mois en arrière que nous avions parlé de la lettre à l'église de Smyrne. Donc, en 2-3 mots ici, voilà le contexte de cette église qui se trouvait à Pergame. Un contexte d'oppression, d'adversité, avec une influence démoniaque forte et avec Satan à la tête de cette influence. Car Satan est le véritable ennemi des croyants de l'Église, dans le but de la détruire. C'est lui qui est derrière les Nicolaïtes, dont on parlera au verset suivant, verset 14-15. C'est lui qui est derrière ceux qui propagent de fausses doctrines. Il veut détourner l'honneur, la gloire qui sont réservées à Jésus seul. Il veut encourager à vivre d'une manière qui n'honore pas le Seigneur. Mais à la croix, Jésus a vaincu le serpent ancien. Jésus a vaincu le diable. Sa tête au diable a été écrasée, en référence à ce que nous lisons dans Genèse 3, verset 15. Jésus est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Jésus a donné sa vie pour former un peuple, quelle église, et qui est composée de personnes qui n'appartiennent plus au royaume de ce monde, qui n'appartiennent plus à l'ennemi, mais qui appartiennent dorénavant à Jésus, à Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus complimente son église de Pergame, pour 2 raisons. La première, comme on le lit dans ce verset 13, il est dit « Tu tiens fermement mon nom ». Dans la Bible, désigner quelqu'un par son nom, c'était désigner toute la personne, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente, tout son être, toutes ses œuvres. Et par conséquent, le nom ici désigne vraiment tout ce que Jésus incarne. Ce n'est pas étonnant que la Bible du Semeur traduise de cette manière « Tu me restes fermement attaché à tout ce que je suis, moi, Jésus ». Tu me restes fermement attaché. C'est rester attaché à tout ce que Jésus est, à tout ce qu'il a fait, à tout ce qui a été enseigné par les apôtres. Dans le contexte d'oppression qui était celui de la ville de Pergame, eh bien, les chrétiens de cette ville sont restés attachés au nom de Jésus, à la personne de Jésus. Et Jésus annonce immédiatement après, « Tu n'as pas renié la foi en moi ». Pourtant, à Pergame, tout était fait pour rendre un culte à tout un ensemble de divinités. Ce n'est pas ce qu'il manquait. Il y avait le choix. Mais les chrétiens n'ont pas renié leur foi en Jésus-Christ, même si cela les a conduits, peut-être certains d'entre eux, à vivre à contre-courant du monde, ou voire même à souffrir à cause de leur foi en Christ. Et c'est ce dont il est question avec, juste après dans ce verset, ce chrétien Antipas, qui a été mis à mort parmi les gens de Pergame parce que justement il avait la foi en Jésus-Christ. On ne sait pas exactement plus que ce qui est dit ici de ce Antipas, mais simplement, à cause de l'évangile de Christ, il a été mis à mort. Face à l'épreuve, il a tenu ferme dans sa foi pour son Seigneur et Sauveur Jésus. On peut noter que Antipas, il est décrit comme témoin fidèle. Tout comme Jésus est présenté comme étant le témoin fidèle en Apocalypse 1, verset 5. C'est très fort l'image qui est utilisée ici pour l'appliquer à Antipas. Antipas a été fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est pas ce qu'on a chanté juste avant. On peut dire que Antipas a porté sa croix jusqu'au bout. À Pergame, il y avait mille et une raisons de se détourner de Christ, que ce soit sur le plan de la doctrine de Christ, que ce soit sur le plan de l'attitude que Christ attend des croyants. Il y avait tout à foison qui pouvait détourner de Christ. Et la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, Christ est un fondement de la foi chrétienne, mais bon nombre de ces chrétiens de Pergame ont résisté, ont persévéré dans ce contexte d'oppression. Ils n'ont pas contredit, ils n'ont pas renié leur foi. Ils ont été fidèles, même si ça leur a coûté. Et il y a un enseignement important pour nous, il me semble, c'est qu'en tant que chrétiens, il nous faut rester attachés à l'ensemble de tous ces fondements qui constituent notre foi. Car de tout temps, à toute époque, l'Église a eu et aura à demeurer fidèle, à rester attachée à ses fondements, à ses doctrines fondamentales de notre foi. Et c'est important de toujours revenir à cela et de s'ancrer dans ces doctrines fondamentales. Car de là en découlera notre action dans ce monde, monde d'oppression, monde d'adversité. Si on est ancré dans la parole de Dieu, si on est ancré dans la doctrine que Dieu nous enseigne dans sa parole, ça aura des répercussions favorables dans notre manière de vivre dans ce monde. Jésus ne manque pas de relever donc ce qui va bien dans cette église de Pergame avec ce verset 13. Elle est fermement attachée à Jésus et elle n'a pas renié la foi en lui. Le second point que je développe ce matin, c'est, avec les versets 14 et 15, rejeter les compromis. Mais, dit Jésus, j'ai plusieurs choses contre toi. Tu as là des gens qui tiennent fermement l'enseignement de Balaam. Il enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle. De la même manière, tu as, toi aussi, des gens qui, pareillement, tiennent fermement l'enseignement des Nicolaïtes. Alors, c'est qui ce Balaam, au verset 15? Qu'est-ce qu'il a fait? Il en était question quand on a abordé cette semaine la lettre de Jude dans l'étude biblique et puis dans la prédication sur Jude le mois dernier. Balaam, il en est question plus largement dans Genèse, les chapitres 22 à 24, un petit peu le début du chapitre 25 aussi, et puis un peu plus tard encore. C'était un devin dont l'histoire nous est racontée dans l'Ancien Testament, dans ces chapitres que je viens de mentionner, Nombre 22 et suivant. Le roi de Moab, qui s'appelait Balak, était ennemi du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Et il avait proposé à Balaam, contre une récompense, de maudire les Israélites qui étaient sur le point de traverser le fleuve du Jourdain, après les 40 ans d'errance dans le désert, et donc d'entrer dans la terre promise. Mais chaque fois que Balaam a parlé, les mots qui lui ont été donnés par Dieu, c'était des bénédictions et non pas des malédictions, au grand malheur de Balak, le roi de Moab. Alors jusque-là, tout va bien en apparence seulement. Mais Balaam, qui était attiré par la récompense et par l'appât du gain, a eu recours à un autre moyen pour maudire le peuple d'Israël et l'amener à pécher. Il a suggéré à Balak que des filles de son peuple séduisent des hommes du peuple d'Israël pour les inviter à prendre part à leurs fêtes idolâtres et immorales. On lit ça dans le début du chapitre 25 et au chapitre 31, verset 16 du livre des Nombres. Et ça a marché. Et ça a marché. L'enseignement de Balaam, auquel des gens dans l'église de Pergame sont fermement attachés, on peut noter que c'est le même verbe que le fermement attaché au nom de Jésus dans le verset précédent, là ils tiennent fermement l'enseignement de Balaam, et bien cet enseignement de Balaam sert à désigner les personnes qui cherchaient à inciter les croyants à s'engager dans des pratiques contraires à la volonté de Dieu, par la consommation de viande sacrifiée à des idoles, dans des cérémonies cultuelles païennes, ou encore par l'immoralité sexuelle. Ces personnes, elles sont décrites comme étant au verset 15, des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, on ne sait pas grand-chose d'eux, il en est question dans la première lettre, la lettre à Éphèse. On ne sait pas grand-chose que ce qui est dit ici, au niveau de leurs origines. En tout cas, ce qui semble clair, c'est qu'ils ont prêché le compromis, la doctrine du compromis, de la concession, de l'idolâtrie en consommant des viandes sacrifiées à des idoles, de faire n'importe quoi avec notre corps jusqu'à de l'immoralité sexuelle. Des traductions de la Bible traduisent ici par la débauche. Tout comme en fait Balaam l'avait fait pour Israël, en Nombre 25. Les Nicolaïtes ont cherché à travestir la vérité. Leur message consistait à dire, maintenant que vous êtes libre, eh bien, vous, chrétiens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre. Et la liberté allait au-delà des limites que Dieu avait posées. C'était une liberté jusque dans le péché, en particulier quand il engageait le corps. Et ces Nicolaïtes étaient influencés par la pensée grecque qui courait à l'époque déjà et qui a pris beaucoup d'ampleur à la fin du 1er siècle et surtout au 2e siècle de notre ère. Cette pensée grecque qui consistait à dire que le corps n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'âme, c'est l'esprit. Le corps est même une prison pour l'âme. Mais le corps n'est pas éternel. Et donc, on peut faire n'importe quoi avec notre corps. Voilà ce que disaient les Nicolaïtes. La Bible dit complètement le contraire. La Bible, le Nouveau Testament en particulier, est clair à ce sujet. On se méprend quand on pense que la liberté que l'on a en Christ nous permet de faire ce que l'on veut avec notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, en 1 Corinthiens 6, verset 19. C'est ce que dit Paul. Et dans le verset suivant, le verset 20, Paul dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». On ne fait pas n'importe quoi avec notre corps. La liberté que l'on a en Christ, c'est la liberté d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir le bien, précisément parce que l'on n'est plus esclave du péché. Et je vous renvoie, je fais une petite parenthèse, à un article d'Henri Blocher qui est paru ce mois-ci dans Libéphile, c'est le magazine de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, où il parle justement de la liberté chrétienne. Alors, on n'en a qu'un seul exemplaire, mais on peut télécharger le PDF, la version électronique, sur le site de l'Institut biblique de Nogent. Je l'ai fait, je pourrais vous l'envoyer si vous me le demandez. Ne vous bagarrez pas à la sortie, on peut faire des photocopies aussi, enfin voilà, on va s'arranger. Mais c'est très intéressant. Je ferme la parenthèse. Voilà ce que Jésus reprochait à cette Église de Pergame. Donc il y a des choses qui vont bien, mais il y en a aussi qui vont un peu moins bien. Et à cela, il y a une exhortation au verset 16. Se repentir de ses péchés. Je relis ce verset. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Repens-toi donc. Se repentir, ce changement de comportement, le fait de réformer sa pensée, sa conduite, pour ne plus se laisser influencer par le monde et tout ce que le monde a avec ses valeurs, ses idées, tout ce qu'il cherche à transmettre. Jésus reproche ici que dans l'église de Pergame, elle n'ait pas pris des sanctions à la hauteur de l'enjeu, à l'encontre de ceux qui s'étaient égarés dans la voie de l'enseignement de Balaam, de l'enseignement des Nicolaïtes qui sont mentionnés dans les versets précédents. Elle les a tolérés. Très probablement que la majorité des croyants de Pergame ne s'associaient pas aux doctrines des Nicolaïtes. Toute raison de penser qu'ils étaient loyaux envers Christ et la foi chrétienne. Et en soi, on serait les premiers à dire que nous ne croyons pas aux idoles. Nous croyons en un seul Dieu, le vrai Dieu qui se révèle dans la Bible. Mais en participant à des repas et à des cultes qui sont adressés à des idoles, c'est comme si on les cautionne. Et plus grave encore, cautionner cette idolâtrie, c'est comme rabaisser Jésus-Christ au même rang que les idoles et considérer Jésus comme un dieu parmi tant d'autres. Et des dieux, c'est pas ce qu'il manquait à Pergame. C'est donner à d'autres la gloire qui ne revient pourtant qu'à Jésus seul. En tolérant cela dans l'Église et en refusant d'imposer des mesures disciplinaires à la hauteur, eh bien, les chrétiens de Pergame prenaient part à leur culpabilité, ils se rendaient coupables et ils s'attiraient le jugement du Seigneur. D'où cette exhortation ici à la repentance. Et on perçoit ici dans le ton de Jésus cette urgence. Repens-toi donc. N'attends pas. Sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Nous sommes encore aujourd'hui dans le temps de la patience de Dieu qui souhaite, comme le dit Pierre, en 2 Pierre 3, verset 9, qui souhaite qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dans sa grâce, Jésus nous pardonne, il nous accueille, il veut nous pardonner, mais encore faut-il se repentir de nos fautes, de nos péchés. Et puis viendra un temps où Dieu ne manquera pas d'exercer son jugement. Jésus se présente comme celui ici qui a dans sa bouche l'épée aiguë à deux tranchants. C'était déjà dans l'adresse de cette lettre au verset 12, je l'ai rapidement lu tout à l'heure, mais ça reparaît ici dans cet avertissement du verset 16. « Sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » L'épée aiguë à deux tranchants. L'épée fait référence ici à la parole de Dieu. On retrouve la même notion, le même vocabulaire dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, je le lis. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » Jésus lui-même a toujours combattu l'erreur de ses contemporains au moyen de sa parole, à commencer par les 40 jours dans le désert, où c'est le diable qui le tentait, où il a répondu par la parole de Dieu. Il est écrit ceci, ceci, ceci. Parce que la parole de Dieu est la vérité, et cette vérité est comme une épée qui permet de séparer ce qui est conforme avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, de ce qui ne l'est pas. Pour les chrétiens, l'épée de la parole de Dieu est cette arme qui permet de lutter pour notre intégrité pour le Seigneur. L'épée fait partie de cette armure que le Seigneur met à disposition du chrétien, comme Paul en parle dans Éphésiens chapitre 6. Elle est là pour lutter. Des 6 armes qui sont mentionnées, elle est la seule qui est offensive d'ailleurs. Les autres sont des armes plutôt défensives, comme le bouclier, la cuirasse ou autre. Et là, c'est l'arme offensive dans la lutte. D'où l'importance et la nécessité de lire la parole de Dieu, de l'étudier, de la méditer, de la mâcher, repenser, de se l'approprier. Elle est une nourriture quotidienne pour notre âme. L'image de l'épée était également le symbole de la plus haute autorité dont était investi le proconsul de la province romaine et qui avait le droit de vie et de mort. et la mort était rendue par l'épée. Mais Jésus-Christ est détenteur d'un pouvoir de vie et de mort qui est redoutable bien plus encore. Lorsque Jésus va revenir, cette même épée changera de fonction. Pour passer d'un message de vérité à un message de jugement. Pour nous aujourd'hui, l'épée de la parole de Dieu permet d'aiguiser notre conscience, permet de discerner le bien du mal. Mais au retour de Christ, l'épée de Jésus, l'épée de la parole de Dieu jugera. Et nous sommes prévenus, c'est Jésus qui le dit lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, à savoir la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. On peut remarquer que Balaam, et la Bible le mentionne clairement, noir sur blanc, a été tué par l'épée pour ce qu'il a fait à l'encontre d'Israël, en Nombre 31, verset 8. Les chrétiens de Pergame qui se sont laissés influencer par l'enseignement de Balaam, par la doctrine des Nicolaïtes, subiront tôt ou tard le même sort. Pas nécessairement littéralement, mais ils finiront par devoir rendre compte au Seigneur. D'où l'urgence de la repentance, l'urgence de ce changement de comportement. Et cet appel résonne jusqu'à nous aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard. Dans le cas où nous nous aurions été peut-être nonchalants au point de se laisser entraîner à des vents de doctrine, à des chemins de traverse, à une certaine mollesse, à la tolérance, au pluralisme, à des concessions, à des compromis avec le monde. J'aurai l'occasion d'y revenir un tout petit peu plus tard. Dernier point avec le verset 17, être fidèle en vue de la récompense. Je relis ce verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Le vainqueur ici, c'est celui ou celle qui entend la parole de Dieu, qui cherche à la comprendre et s'efforce de vivre selon elle. Dans le contexte de Pergame, le vainqueur, c'est celui ou celle qui s'est gardé de suivre la doctrine de Balaam ou celle des Nicolaïtes, qui a dénoncé, qui s'est opposé à ces faux enseignants pour vivre selon la parole de Dieu. Et puis, à la mesure du verset 16, c'est aussi celui qui s'est repenti. Peut-être il est tombé dedans, mais il s'est repenti pour réaligner sa conduite dans la voie du Seigneur. Il y a deux récompenses qui sont mentionnées pour le vainqueur. De la manne cachée et un caillou blanc avec un nom écrit dessus, un nom nouveau. C'est sympa comme récompense, hein ? Moi, je trouve que c'est assez sympa quand on va voir ce vers quoi ça pointe. Parce que dit comme ça, c'est vrai, un caillou blanc. Vous donnez ça à quelqu'un dans la rue, la récompense, c'est un caillou blanc, de la manne cachée. Alors la manne, elle fait référence au pain dont le peuple d'Israël avait été divinement nourri pendant les 40 années dans le désert. Le peuple avait été nourri quotidiennement avec cette manne. Il ne savait pas ce que ça voulait dire, ce que c'était, mais c'était là, tous les matins. En tout cas 6 jours sur 7, avec la double ration le 6e jour pour le jour du sabbat. Cette manne ici, elle est dite cachée, parce qu'elle n'est pas accessible encore aujourd'hui. Elle ne sera révélée qu'à la fin des temps. Et il y a une allusion ici à ce qui nous attend dans le ciel au retour de Jésus, où nous participeront à ce festin avec les noces de l'agneau, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous serons nourris par Jésus-Christ en le voyant face à face. Nous serons semblables à lui. Nous serons en communion parfaite avec lui. La manne pointe vers ce festin final qui nous attend au retour de Jésus. Et la seconde récompense est un caillou blanc. Le caillou était souvent utilisé dans les coutumes de l'époque, de l'Antiquité, comme un droit d'entrée qui permettait d'avoir accès à certaines festivités. Dans la coutume romaine, le caillou blanc était aussi donné aux vainqueurs dans des concours athlétiques pour qu'ils aient un droit d'entrée pour un festin spécial pour eux où on allait leur remettre leur récompense. Ce qui ressort dans ces deux coutumes de l'Antiquité, c'est la notion de droit d'entrée. Car là encore, le contexte nous invite à y voir une invitation donnant accès à ce banquet final, à ce festin final avec Jésus-Christ, pour ceux qui auront refusé de participer au banquet des idoles ou qui s'en seront repentis. Sur ce caillou blanc, il est dit qu'il est écrit un nom nouveau. Et ce n'est pas sans évoquer le « tu es resté fermement attaché à mon nom » du verset 13. Un nom nouveau ici évoque l'entrée dans une existence nouvelle, dans un statut nouveau. Ceux qui retiennent le nom de Jésus-Christ, comme ça a été dit au verset 13, avec loyauté, avec ferveur, qui refusent d'attribuer l'honneur à une quelconque divinité ou même à l'empereur de Rome, car il y avait le culte à l'empereur dans cette ville de Pergame, ces personnes-là recevront un nom nouveau. Ce nom ne sera pas connu de ceux qui placent le nom de l'empereur romain sur le même plan que celui de Christ. Eux n'entreront pas dans une existence nouvelle. Cette existence nouvelle n'est réservée qu'aux vainqueurs. Alors j'aimerais terminer en nous posant une question. Qui sont ou que sont pour nous les Nicolaïtes de nos jours ? Je mets des guillemets à Nicolaïte. Cet enseignement des Nicolaïtes, il me semble, on le retrouve avec différentes déclinaisons de nos jours. Et je ne serai évidemment pas exhaustif, mais j'aimerais mentionner plusieurs choses. La première, c'est le pluralisme. Par exemple, le pluralisme parce que le principe est de dire qu'on reconnaît, on accepte la diversité des opinions, tout en s'efforçant de respecter, de tolérer tout le monde dans le but de coexister, de bien s'entendre, de faire des choses ensemble. Et à ce pluralisme, on y adosse le relativisme. Comme le dit un commentateur, Sylvain Romerowski, dans son commentaire sur le livre de l'Apocalypse, l'idée qu'il y aurait une vérité universelle est aujourd'hui largement rejetée dans notre culture. À chacun sa vérité, en fonction de ce qui lui convient, en matière de religion et de morale. À chaque culture, ses valeurs propres. Voilà. Et tout le monde est content. Et en tant que chrétien, il me semble qu'on ne peut pas transiger avec le pluralisme, le relativisme. On l'oublie parfois, mais la foi chrétienne a un caractère exclusif. Imaginons, il y a 2000 ans en arrière, les chrétiens de Pergame, certains étaient amenés à dire, après tout, déposer quelques graines d'encens devant le buste de l'empereur de Rome, tel ou tel jour de l'année, du mois, de la semaine, après tout, je garde ma confiance en Dieu, je reste croyant en Dieu, je garde mes convictions en Jésus-Christ, c'est lui le seul Seigneur. Certains étaient tentés de le faire. Certains l'ont fait, très probablement. Toujours dans cette ville de Pergame, avec ce dieu, cette divinité Asclépios, le dieu de la guérison, de la médecine, et des chrétiens qui pouvaient être tentés de dire je ne suis pas guéri, peut-être que si je vais sacrifier sur l'autel de cette divinité, je serai guéri. mais je garde mes convictions chrétiennes. Mais peut-être que ce Dieu peut m'apporter quelque chose. Et aujourd'hui encore, on peut être tenté à tout prix de rechercher des solutions vers des médecines en dehors des sentiers battus pour trouver guérison. Mais ça mène souvent dans des impasses. On pourrait dire aujourd'hui aussi le discours pluralisme de telle religion, de telle organisation, ou telle prise de position, finalement, ne m'engage à rien. Je peux les tolérer, et puis je garde mes convictions évangéliques, et tout va bien, et tout le monde est d'accord. Et je ne suis pas persécuté pour ma foi, et je ne suis pas considéré comme un intégriste ou je ne sais quoi. Mais agir de cette manière, ce serait faire passer le message que le Seigneur Jésus-Christ n'est qu'une divinité parmi tant d'autres. Et c'est ce que le monde ne cesse de nous rappeler, finalement. Se comporter de cette manière, c'est se comporter, finalement, comme le monde. La foi chrétienne a un caractère exclusif. Dieu est un Dieu qui ne tolère aucun rival, aucune idole. On peut prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus lui-même. Il a un profond amour pour les gens. Et on l'a chanté tout à l'heure dans le premier chant. Il nous aime tous. Il a donné sa vie pour le monde. Et pourtant, il n'a jamais transigé avec la vérité, avec la doctrine, son enseignement, avec la morale. Jésus est la vérité. Il dit lui-même qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si ça, ce n'est pas exclusif. Jésus est la vérité et dans son enseignement, tellement de fois, on a « en vérité, je vous le dis ». Quand il introduit quelque chose de particulièrement fort qu'il veut qu'on retienne, qu'il veut qu'on s'empare, qu'on se saisisse. En vérité, je vous le dis. Jésus n'a jamais transigé avec la morale. Il n'a jamais péché et pourtant il a été tenté comme nous. L'amour pour les autres et la vérité de l'exclusivité de la foi chrétienne que Jésus a exercée l'un comme l'autre, eh bien, il nous faut le vivre aussi. Mais on est sur un chemin de crête. Il ne faut pas donner la supériorité à l'amour au détriment de la vérité, au détriment du pluralisme, du relativisme. Il ne faut pas non plus donner la supériorité à la vérité au détriment de l'amour, car Dieu nous demande aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il y a donc un équilibre à trouver entre l'amour et la vérité, et le Nouveau Testament conjugue les deux ensemble, comme on le voit en Éphésiens 4, verset 15, par exemple, ou 1 Pierre 1, verset 22, ou encore 3 Jean, verset 1. Je ne les affiche pas, mais vous pourrez regarder. Jésus lui-même l'a montré dans ses relations et dans son enseignement. Il a aimé et il a maintenu la vérité ensemble, sans jamais se compromettre. Nous venons de parler du pluralisme, du relativisme. On pourrait évoquer une autre tendance nicolaïte qui est très à la mode. Le rejet de l'autorité. Le rejet de l'autorité. Qui s'est de plus en plus amplifié avec l'émancipation qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières décennies. Et on le voit à la maison, beaucoup d'enfants qui sont de plus en plus rebelles à l'égard de leurs parents. À l'école, des élèves qui sont impertinents et qui rejettent l'autorité de leurs enseignants. Au travail, à l'égard des responsables, de la hiérarchie. Sur la route, avec toujours la tentation, l'envie d'aller plus loin que ce que le code prescrit. Dans les relations avec les autorités civiles. Je me souviens d'un reportage avec un policier qui disait « Avant, les malfrats, les voyous, ils voulaient taper du flic, maintenant ils veulent tuer du flic. » Parce que le rejet de l'autorité prend de plus en plus d'ampleur. Elle est de plus en plus remise en question, rejetée cette autorité. Et l'on voit cela jusque dans l'Église, où la doctrine de l'autorité de la Bible est mise à mal, bien souvent. Adhérer à la doctrine et à la morale chrétienne, c'est s'y soumettre. C'est de fait accepter de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu, et donc à l'autorité de Jésus sur notre propre vie. Il est le Seigneur. Il a donc autorité sur son peuple. Tout ce qui se trouve dans sa parole, tout ce qu'il me donne, ou tout ce qu'il ne me donne pas, quand bien même je peux lui demander depuis des années, tout cela est bon pour moi parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. Nous lisons dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Jésus adresse donc dans cette lettre à l'église de Pergame des paroles d'encouragement mais aussi de mise en garde. Il mentionne leur foi face à la persécution, face à ce contexte d'oppression et d'adversité, tout en appelant à la repentance pour des compromis, des concessions qui ont pu être faites. La lettre à l'église de Pergame nous rappelle l'importance de rester ferme dans notre foi, même lorsque nous faisons face à des pressions sociales ou des compromis moraux. Elle nous encourage à identifier et à renoncer à tout ce qui pourrait nous éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ, pour toujours plus revenir, nous recentrer sur lui, sur sa personne. Et sa parole tient une place centrale dans notre vie, comme nous venons de le voir avec 2 Timothée 3, versets 16 et 17, pour ne lire qu'un exemple. Alors soyons des témoins fidèles, pour reprendre ce qui est dit d'Antipas au verset 13. Soyons des témoins fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ, attachés à la parole, à sa parole qu'est la vérité, pour vivre tout entier pour lui et pour sa gloire. Amen.